Bonjour tout le monde. C'est toujours un moment de branchement auquel on peut y échapper. Donc c'est encore un privilège pour moi et une joie d'être avec vous ici pour vous parler de notre Sauveur Jésus-Christ, de proclamer sa parole. Et comme vous le savez, dans l'année, on expose le prophète Osée. Exceptionnellement, dans cette période de l'Avent, on est beaucoup plus centré sur les messages de Noël. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler de Christ, de Jésus, du Logos, dans l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les versets 4 et 5, mais je lirai à partir du verset 1. Nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur. Au commencement, je vais lire de la version nouvelle édition de Genève. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Parole du Seigneur. Noël est rempli de, on dit souvent de distractions. C'est souvent festif, du point de vue traditionnel. Et quand on parle de Noël, on parle souvent de la bûche de Noël, on parle de, dans des familles, on fait de la dinde. En fait, on est en famille, mais que nous rappelle vraiment l'essence de Noël? C'est quoi exactement pour nous Noël? Et dans ce prologue, donc à partir du verset 1, Jean nous ramène à la véritable essence de Noël. En la personne de Jésus-Christ qui est décrit comme la parole, comme le Logos. Nous lisons qu'au commencement était la parole. Et Jean ici, dès le début, il nous parle de Jésus. Il nous dit que Jésus est éternellement Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et cette phrase n'implique pas que la parole est un commencement. Cela signifie que la parole a toujours existé. La parole a toujours existé. Le mot était, et on parle au temps imparfait, ce qui signifie qu'une action du passé qui continue dans le présent actuel où nous sommes. Donc la parole est éternelle. Il a toujours été et sera toujours avec nous. Avant qu'il n'y ait quoi que ce soit d'autre, il y avait la parole. Jésus est né à Bethléem, mais ce n'était pas son commencement. Et ce n'était pas non plus un plan B, parce que Jésus existe depuis toujours. Jésus est l'alpha et l'oméga. Et on parle de Jésus de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu ne nous a pas envoyé un peu d'éternité, il nous a envoyé le cœur même du ciel. Comme Jean l'a dit plus tard dans son épître, dans 1 Jean 4, verset 14, « Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Et toujours au début, dans ces premiers versets, nous voyons que le mot traduit par « parole » est le mot grec « logos ». Qui fait référence à un discours, un raisonnement, une explication, une parole sur quelque chose. Et c'est ce qu'est Jésus. Jésus est également Dieu, la parole. Jésus est l'expression parfaite de qui est Dieu. Et le mot « avec » signifie « face à face ». Avec, face à face. Cela nous dit que Jésus était face à face avec Dieu. En d'autres termes, c'est que Jésus est Dieu. Donc Jean débute en annonçant déjà que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il parle déjà d'entrée de jeu de la divinité de Jésus-Christ. Cela nous rappelle que le Dieu que nous servons est un Dieu trinitaire. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. La parole, Jésus, est l'une de ses manifestations. Et nous lisons dans notre confession de foi, de la 1689 au chapitre 2, au paragraphe 3, « Dans cet être divin et infini, il est trois substances, le Père, la parole ou le Fils, la parole ou le Fils et l'Esprit Saint qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne et il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Amen. » Et nous voyons aussi ces déclarations, c'est que la parole était Dieu. Donc, il est clair qu'ici, nous avons un Dieu qui, de par son essence, est divin. Non seulement la parole est coéternelle et coégale à Dieu, la parole, Jésus-Christ, est Dieu. C'est pourquoi Jésus a pu dire les choses qu'il a dites dans Jean 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Et lorsque Dieu a envoyé son Fils dans ce monde, en Jean 3, 16, il a envoyé quelqu'un qui était éternellement et également dans son essence divin. C'était un Dieu. En d'autres termes, lorsque les anges ont dit, dans Luc 2, verset 11, « C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ?» Ils annonçaient la naissance de Dieu dans une chair humaine. Et tout au long de la vie, de sa vie, Jésus a prouvé à maintes reprises qui il était. De « Lève-toi et marche » à Lazare, de « Sors » à « Tes péchés te sont pardonnés » à « Tout est accompli à la croix ». La vérité et la puissance de sa divinité étaient constamment et toujours exposées. Chaque parole, chaque acte, chaque miracle déclarait qu'il était Dieu. Et nous voyons aussi qu'au verset 3, « Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus est le créateur de la création. Lorsque vous considérez que ce verset nous dit que Jésus était le créateur de l'univers, sa naissance devient encore plus étonnante. Et c'est exceptionnel. Le créateur de la création s'est humilié et est devenu une créature dans sa création. Jésus, qui était l'agent de la création, est sorti de l'éternité, a mis de côté sa gloire et est entré dans ce monde en tant qu'humain. Il est même la puissance. C'est le roi des rois. C'est le Dieu créateur. Non seulement il a créé cet univers, mais il le maintient aussi. Il le maintient. Parce que c'est lui qui a décrété toute chose. Il maintient sa création. Et donc le prologue que commence Jean est probablement le plus élaboré de tous. Lorsqu'on voit, on compare aux évangiles synoptiques. Il présente les thèmes qui seront importants pour le portrait que Jean dresse de Christ et de l'objectif de Dieu en l'envoyant dans le monde. Trois de ces thèmes sont rassemblés dans les versets 4 et dans les versets 5. Ensemble, ils offrent un résumé utile du message de Jean et de l'ensemble de l'évangile de Jésus-Christ. Et donc mon premier point en Jésus-Christ était et est la vie. Et donc le premier de ces thèmes apparaît au verset 4. En elle était la vie. En elle était la vie. On va voir que le mot vie dans l'évangile de Jean apparaît 36 fois. 36 fois. C'est pas rien. C'est pas 2-3 fois, c'est 36 fois. Bien plus que dans les autres livres du Nouveau Testament. Et donc, la vie au sens biblique désigne le salut. L'état de réconciliation avec notre Dieu et l'accès à la présence de Dieu. Et c'est un des thèmes les plus importants de l'évangile de Jean. Et les versets précédents disent que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La deuxième personne de la Trinité, la parole, qui est le sujet de cet évangile, est la source de toute vie dans cet univers. C'est ça ce que Jean nous dit, que Jésus est la source de vie dans cet univers. Jésus a la capacité et l'autorité de donner la vie. Non seulement il possède la vie, mais la vie elle-même se trouve en lui et vient de lui. Jésus a dit dans Jean 5, verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Toute vie en Christ, y compris la vie physique ou biologique, mais Jean se réfère plus particulièrement à la vie spirituelle ici. L'expression qu'il utilise souvent est la vie éternelle. Jean 3,16 proclame que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et nous devons penser à la vie éternelle, non seulement en termes de quantité, mais en termes de qualité. On peut voir la quantité, oui, on va vivre longtemps, mais c'est en soi cette qualité de vie que nous avons en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de la prolongation de notre vie terrestre, mais de la vie céleste qui commence en nous au moment où nous croyons en Jésus-Christ. Rien n'est comparable à cette vie-là. Et cette vie ne s'arrête jamais. Dans des millions d'années, la vie de Dieu sera toujours la nôtre dans et par le Christ Jésus. Selon Jean, le contraire de la vie éternelle n'est pas la simple mort, mais la condamnation éternelle. Il a dit dans Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Recevoir la vie éternelle, c'est donc être sauvé du saint jugement de Dieu et entrer dans le règne éternel de la gloire du Christ. Vous savez, les gens dans ce monde, ils pensent que se tourner vers Christ enlève toutes sortes de joies en nous. Quand on est chrétien, on est toujours triste. On se plaint tout le temps. On n'est pas heureux. Mais lorsque vous venez à Jésus, votre capacité à vous réjouir augmente considérablement. Le péché ne fait que tuer et épuiser notre vie, alors que le Christ nous remplit d'émerveillement et de joie. C'est quoi une vie en dehors de Christ ? Vous allez prendre quelqu'un qui est dépendant à la drogue. lorsqu'il n'a plus de quoi consommer, ce n'est pas la joie qui l'habite. Pas du tout. Une personne qui est dépendante à l'alcool, lorsqu'elle n'a plus de quoi se procurer de l'alcool, ce n'est pas la gaieté qui l'habite. Vous allez prendre l'adultère. Vous pouvez voir les dégâts que l'adultère fait dans les familles. Ce n'est pas de la joie, c'est des pleurs, c'est du chagrin, c'est de la tristesse. C'est ça la vie en dehors de Christ. La vie dans le péché nous éloigne de Christ, nous attriste. Mais c'est la vie en Jésus-Christ qui nous donne cette joie que le monde ne peut pas nous donner. Pour les chrétiens, cependant, la joie est le résultat intérieur de la bénédiction de l'Esprit-Saint. Paul écrit dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et c'est ce que Jean veut que nous voyions dans le Christ. En lui était la vie. Et en lui est toujours la vie. Jésus a la vie à donner à ceux qui se confient en lui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. La vie en abondance. Remarquons le lien entre ce verset et les versets précédents. C'est-à-dire entre Jésus en tant que parole et Jésus en tant que vie. Jésus en tant que parole, Jésus en tant que vie. C'est par la parole de Dieu que la vie du Christ entre en nous. C'est par sa parole que la vie entre en nous. Cela signifie que si vous voulez croître, grandir dans le Christ, si vous voulez être épanoui par la vie spirituelle, vous devez vous abreuver de la parole de Dieu. Psaume 1. Psaume 1, quel psaume? Psaume 1, verset 1, verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. C'est un défi pour nous tous, de méditer jour et nuit. Mais nous devons la méditer jour et nuit. Et qu'est-ce qu'il est dit par la suite? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage, ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et dans la Bible, on a toute la recette de la vie. C'est comme un modus operandi, en fait. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas à aller chercher des modèles dans le monde. Nous avons un modèle qui est biblique. Nous avons une perspective ici qui est normative sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour vivre dans ce monde qui est déchu. À travers sa parole, il fournit à l'homme la direction nécessaire pour vivre. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous n'avons pas besoin des idoles de ce monde. Nous n'avons pas besoin de Baal. Nous n'avons pas besoin de ressembler à Elon Musk ou à qui que ce soit. Non. Dieu nous donne sa parole. La parole transmet la vérité, la sagesse qui expose le péché et guide vers une vie juste et bénie. Parce que la parole, c'est ce miroir qui nous montre à quel point nous sommes pécheurs. C'est la parole qui nous révèle notre nature. Et c'est pourquoi beaucoup évitent, ne veulent même pas regarder leur péché en face. C'est une chose d'exister dans ce monde et une autre de savoir comment vivre, de connaître le but véritable de la vie et le moyen d'aller au ciel. C'est la Bible qui nous donne cette vérité. Celui qui nous donna la vie répand également la lumière sur notre chemin. Et Jean Calvin écrit à propos de la lumière, « Et puisque cette lumière, dont la parole était la source, nous a été transmise par lui, elle doit servir de miroir dans lequel nous pouvons clairement contempler la puissance divine de sa parole. » Amen. Mon deuxième point, Jésus, la lumière qui brille. Et ici, c'est précisément le lien que fait Jean, à savoir que la vie en Christ est comme une lumière qui brille dans les ténèbres. Nous lisons au verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière est un autre des grands thèmes de Jean. Les premières paroles de Dieu sont, dans Genèse 1, verset 3, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » J'en fais allusion à l'acte initial de la création impliquant la lumière en Genèse 1, verset 3. Et il invoque l'association de la lumière avec la gloire divine. Et donc la métaphore de la lumière est liée au motif de la parole au verset 2, et donc est liée à Jésus-Christ. La lumière est utilisée dans la Bible comme métaphore du salut, de l'éveil spirituel. Et la lumière est une image que tout le monde comprend. Et elle est riche d'un éventail de significations. Nous allons voir que, en premier, qu'est-ce que fait la lumière? Lorsque vous rentrez dans une chambre qui est sombre, la lumière est révèle. C'est ce que prophétise Ésaïe à propos de la venue de Jésus. Dans Ésaïe 9, verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. » L'homme vivait dans les ténèbres spirituelles, ignorant Dieu, et vivant dans la superstition. L'homme baignait dans son péché. Il baignait dans les ténèbres. Et nous lisons dans Jean 14, verset 9, c'est pourquoi Jésus est venu révéler Dieu. « Celui qui m'a vu, a vu le Père », a-t-il annoncé. James Boyce commande que Jésus se révèle comme celui qui connaît Dieu le Père et qui le fait connaître. Avant que le Christ ne vienne au monde, le monde était dans les ténèbres. Le monde ne connaissait pas Dieu. Le Christ est venu. Sa lumière a brillé devant les hommes. Alors les hommes ont eu la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière de ce monde. C'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous révèle Dieu le Père. Jésus est donc venu nous révéler Dieu. Jésus est aussi venu pour nous emmener à la communion avec Dieu en tant qu'adorateur, en esprit et en vérité. Deuxièmement, la lumière ne révèle pas seulement, mais la lumière réchauffe aussi. La lumière réchauffe. Marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans le péché et la dépravation totale et morale. Mais la lumière du Christ réchauffe le cœur et transforme le cœur qui s'incline à la croix. Cette transformation spirituelle est ce que Jésus a voulu dire dans Jean 12, verset 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi et ne demeure jamais, ne demeure pas dans les ténèbres. Troisièmement, la lumière ne se contente pas que de révéler et de réchauffer, mais elle nous guide également. Elle nous guide également. Et nous pensons à la nuée lumineuse qui a guidé Israël à travers le désert pendant l'Exode, par exemple. Le psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » De même, Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si vous venez à Jésus-Christ dans la foi et le suivez en tant que disciple, il sera la lumière qui va vous diriger dans les sentiers de la justice à cause de son nom, comme nous lisons le psaume 23. C'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va nous conduire à bon port. Quatrièmement, la lumière transmet et stimule la vie. Je ne sais pas qui a déjà eu à faire des potagers. Vous allez remarquer que lorsque vous avez un potager, vous laissez à la lumière pour qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse, disons, porter du fruit. De même, vous grandirez vers le haut lorsque la lumière de la parole de Christ brillera en vous. David a chanté que la parole de Dieu est comme le soleil qui brille par une matinée sans nuage, qui fait sortir de terre la verdure, dans 2 Samuel 23, verset 4. Au commencement, comme nous l'avons vu, la première parole créatrice de Dieu fut que la lumière soit. Aujourd'hui, la lumière du Christ brille avec puissance, avec la puissance de sa vie, à travers sa parole. Jean 1, verset 4 nous dit « Quand l'aile était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et ce grand verset résume également ce que signifie pour nous être à l'image du Christ. C'est quoi être à l'image du Christ? Jésus veut que vous soyez une lampe qui reflète la lumière dans le monde. Que nous soyons ces lumières-là, dans ce monde qui est si obscurci par le péché. Il veut que nous révélions Dieu à ceux qui nous entourent. Il veut que nous réchauffions les autres pour qu'ils recherchent la vérité et l'amour de Christ. Il veut que nous soyons un guide pour les autres. Il veut que la lumière qui brille en nous à travers nous emmène les autres à la vie éternelle. Il a insisté sur ce point dans Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Jésus est la lumière qui rend le salut possible dans ce monde dans lequel nous vivons, dans le monde spirituel. Et nous avons besoin de la lumière qu'apporte la parole pour ainsi luire devant le monde. Et nous avons besoin de méditer sa parole, de nous imprégner de ce qu'il dit dans sa parole, afin d'être des témoins et des messagers de Christ. Mon troisième point, les ténèbres contre la lumière. La troisième image utilisée par Jean est celle des ténèbres. Dans Jean 1, verset 5, nous lisons « Que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Les ténèbres représentent le contraire de la lumière. Si la lumière représente la connaissance de Dieu, les ténèbres représentent l'ignorance de Dieu. Cette antithèse s'inspire de Genèse 1, versets 1 à 5, ainsi que d'autres traditions qui présentent l'avènement du Messie comme une lumière se levant sur un monde de ténèbres physiques et spirituelles, dans Ésaïe 9, verset 2. Si la lumière représente la chaleur et la bonté, alors le monde obscurci est celui qui n'est pas en état de sainteté, parce qu'il baigne dans le péché, il vit dans son péché. Si la lumière nous conduit sur de bons chemins, les ténèbres sont le royaume des perdus et le royaume des aveugles. Non seulement les ténèbres diffèrent de la lumière, mais elles s'opposent à la lumière. La venue du Christ en tant que lumière s'est donc heurtée à l'opposition d'un monde qui était tant obscurci. Tant obscurci. Vivant dans son péché, ignorant Dieu, ignorant le Dieu de l'Alliance. Les prêtres et les scribes enviaient la popularité de Jésus. Les Romains, avides de pouvoir, le considéraient comme une menace pour leur domination militaire. Mais il n'y avait pas que l'élite, car, on le voit dans Jean 19, verset 15, même les gens ordinaires ont réclamé le sang de Jésus à Ponce Pilate. Il n'y avait pas que l'élite. Des gens ordinaires comme nous se sont opposés à Christ, jusqu'au point de réclamer son sang. Lui qui n'avait rien fait. Il est venu sans péché. Et donc si les gens vous disent que ce monde, que les gens que nous sommes sont fondamentalement bons, depuis la chute, depuis notre Père Adam, il n'y a rien de bon qui sort de nous. Jésus qui est venu sans péché, qui n'a fait de mal à personne, et nous avons réclamé son sang. Les pharisiens hypocrites lui en voulaient d'exposer leur légalisme. Les prêtres, tout le monde était contre lui. Lorsque le Fils de Dieu est venu dans le monde l'a cloué sur la croix. La forme d'exécution la plus cruelle qu'on puisse imaginer. Les gens aujourd'hui méprisent Jésus de la même manière, malgré une admiration supposée qui vient juste du bout des lèvres. Mais ils n'apprécient pas ce Sauveur. Ils n'apprécient pas le Christ, Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle les gens n'osent pas affronter la lumière de Jésus telle qu'elle brille dans les Écritures. Et qu'il fuit sa lumière pour des ténèbres et pour les péchés qui est encore plus confortable. Et ce n'est que lorsque nous nous humilions devant Dieu que nous admettons notre besoin de sa grâce et que nous réalisons que Jésus est venu pour nous aider et nous sauver que nous cessons de fuir. Lorsque nous sommes gravement malades, nous nous réjouissons d'avoir des soins. Lorsqu'on est au bord du gouffre, on est souvent heureux de voir une ambulance ou d'être pris en charge. Quand on va aux urgences, assez rapidement. De même, lorsque vous réalisez que vous avez besoin de la miséricorde de Dieu et qu'il est prêt à vous sauver, vous accueillez la lumière du Christ dans votre cœur. Mais que vous l'acceptiez ou non, sachez que vous n'éteindrez jamais cette lumière qui brille. Cette lumière qui brille pour l'éternité. Cette lumière brillera soit en ou sur vous, afin que vous n'échappiez jamais à la condamnation de Dieu, c'est-à-dire au jugement et à la mort. Jean utilise un mot à la fin du verset 5, « et les ténèbres ne l'ont point reçu », qui peut être interprété de différentes manières ici. Ici, le verbe grec qui est utilisé est « katalombano », et certaines traductions le rendent par « comprendre », « reconnaître ». Et donc la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. C'est une traduction possible, car les ténèbres ne cherchent pas à comprendre la lumière, mais elles cherchent à s'opposer à la lumière. Elles cherchent à freiner la lumière. Et donc, les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Et à un moment donné, les adversaires de Jésus, dans Luc 4, versets 29 à 30, ont formé une foule pour le lapider, mais il les a traversés de part en part. Dans Jean 7, 45, 46, ils ont envoyé des soldats pour l'arrêter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été impressionnés par Jésus. Enfin, alors que les sombres nuages de la colère de Dieu s'abattaient sur lui pour nos péchés, Jésus est mort et ils l'ont déposé dans l'obscurité du tombeau froid. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est sorti du tombeau. Même les ténèbres de la mort n'ont pas pu le vaincre. Il est monté au ciel, et bien que le monde ait essayé d'éteindre la lumière du Christ, celle-ci brille encore plus fort. Et lorsque Jean a écrit cet évangile, 50 ans d'opposition et de persécution n'avaient pas éteint la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Et depuis lors, 2 millénaires se sont écoulés. Cette lumière brille encore. Ça, c'est la bonne nouvelle. Cette lumière, elle brille encore. Le monde ne peut pas vaincre la lumière du Christ. Mais combien de fois son propre peuple, nous, en tant que chrétiens, nous négligeons cette lumière? Est-ce que nous vivons en communion constante avec Jésus? Est-ce que nous obéissons à sa parole? Marcher dans la lumière du Christ est le seul moyen de vivre dans la puissance de son salut. Jean écrit dans sa première épître, dans Jean 1, 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est Jésus-Christ, par son sacrifice, par son sang qui a coulé, qui nous lave de tous nos péchés. Et nous n'avons pas à aller chercher le pardon des péchés, des idoles, dans des créatures que lui, c'est lui qui est la source de vie. C'est en lui qu'est le pardon et c'est en lui qu'est la vie éternelle. Lisons et méditons la parole de Dieu. Allumons la lumière du Christ dans nos cœurs, surtout dans les endroits les plus sombres, parce que nous vivons là où nous vivons et là où nous sommes de passage. Parce que nous sommes des pèlerins et nous nous dirigeons vers la Jérusalem céleste. Il y a des ténèbres partout. Serrons la parole de Dieu. Lisons, méditons cette parole. Afin de rester fidèle à notre Dieu. Allumons cette lumière du Christ dans nos cœurs. laissant briller la vérité, la chaleur de la parole de Dieu, qui révèle la gloire et la grâce de Dieu dans nos âmes. Et nous serons guidés vers une vie plus abondante dans le Christ. La nature de la lumière consiste à luire et à chasser les ténèbres. Les ténèbres sont incapables de dominer sur la lumière. Satan est incapable de lutter avec notre Dieu Tout-Puissant. Satan et ses sujets résisteront à la lumière, mais seront incapables de le réduire à l'impuissance. La parole, Jésus-Christ sera victorieuse en dépit de l'opposition. En conclusion, nous avons lu qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et ce sont les grands thèmes que nous retrouvons tout au long de l'évangile de Jean. La vie, la lumière et les ténèbres. Mais n'oublions pas que Jean nous renvoie à Jésus-Christ. C'est lui la lumière. C'est lui la vie. Ce qui compte dans la vie, ce n'est donc pas que nous sommes et avons été, ni ce que les autres ont fait, ni les défis ou les épreuves que l'avenir nous réserve. Ce qui compte, c'est que le Christ a la vie par sa lumière qui brille dans ce monde et que les ténèbres ne peuvent pas le vaincre. Jésus-Christ est le chemin de la vie et il est cette lumière. Cessons de nous fier à nous-mêmes ou à quoi que ce soit dans ce monde. Mais reposons-nous en Christ et remettons notre cas entre ses mains. Et il a dit dans Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Cette lumière, frères et sœurs, continue de briller. Elle va continuer de briller. Et grâce à elle, vous pouvez avoir la vie éternelle, la vie en abondance en Jésus-Christ. Prions sans cesse pour que nos yeux puissent rester ouverts, afin que contempler cette lumière et de pouvoir marcher avec elle pour devenir spirituellement sage dans la foi en Jésus-Christ. Et je vais terminer par ce verset de Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est en lui seul que nous avons la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, gloire te soit rendue. Merci pour ce message d'amour. Merci pour tes promesses abondantes, éternel, notre Dieu. Merci pour Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui a pris sur lui le châtiment qui pesait sur nous et pour que nous ayons la vie éternelle. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Seigneur, nous savons que c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. Et c'est pourquoi nous déclarons aujourd'hui que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Roi des Rois. Jésus-Christ est le Créateur de ce monde. Et en lui, nous avons l'espérance. Nous avons ce Dieu trinitaire sur qui nous nous reposons et nous le proclamons haut et fort. Nous te prions, Seigneur, de nous donner d'être des lumières dans ce monde qui est en obscurcie, afin qu'on soit des messagers fidèles, des messagers du Dieu Tout-Puissant, des messagers qui proclament la parole de vie, pour que des brebis égarées reviennent dans la maison de leur Père, la maison de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est en son nom que nous avons prié. Amen.